Répertoire avec un S. La parole en mouvement. J'ai le sentiment que l'ensemble de mon parcours s'apparente à une ligne droite. Chacune de mes pièces est un jalon sur un chemin rectiligne, sans déviation. Quand on dévie, on le sait. On le sent. C'est à cela que l'artiste doit, me semble-t-il, opposer toutes ses forces. La ligne qui relie deux points est nécessairement tendue, sans répit. Une seule et même intention que l'on répète inlassablement, et c'est sur soi que l'on œuvre, en réalité. Nasera Belaza dit tracer d'un spectacle à l'autre une même ligne. Ce vocabulaire géométrique du trait, de la ligne, voire même du cercle, est très présent dans le travail de la chorégraphe. Mais s'agit-il d'une approche méthodologique, d'une recherche artistique, d'un parcours corporel? Comment définir les gestes de la chorégraphe et danseuse? Par une rigueur qui lui fait considérer un spectacle jamais achevé? Par une exigence qui lui font comparer son travail à celui d'un artisan? Toutes ces pistes ne s'excluent pas, mais il faut sans doute donner la parole à Nasera Belaza elle-même pour nous expliquer son travail de recherche, les états qu'elle traverse, le lâcher-prise qu'elle cherche à atteindre, à l'encontre d'une danse cérébrale. La danse de Nasera Belaza est une expérience sensible, ouverte au spectateur, à l'amateur qui n'a parfois que la porte à franchir pour se retrouver embarqué.
Durant tout mon parcours et de pièce en pièce, j'ai eu le sentiment vraiment de tendre un seul et même fil. Et c'est ce qui me donne l'impression, finalement, que chaque pièce a été traversée par cette tension. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à dire que ça pouvait être qu'un seul trait, une seule tension, même si chaque pièce a été un cheminement, a impliqué un cheminement imaginaire qui lui était propre. Mais néanmoins, elle était traversée par cette tension qui pour moi, voilà, c'est une sorte de tentative permanente de tendre vers... vers geste plus parfait, plus précis. J'ai souvent l'image du calligraphe, de l'artisan en tête qui en fait ne cherche pas à faire quelque chose de nouveau mais plutôt à parfaire le même geste. Voilà, donc c'est ce qui explique cette sensation d'avoir tiré un trait et que finalement, ce qui était important aussi dans ces pièces, c'était cette tentative du geste parfait, oui. Je ne cherche pas à faire vivre le répertoire juste pour le faire vivre, c'est, je trouve ça indispensable dans notre parcours, en fait. Les pièces qui ont été écrites, pour moi, elles ne sont pas finies si elles ne le seront jamais. Elles induisent un certain type de cheminement pour moi est essentiel dans le travail que je fais, dans mon propre parcours, mais aussi celui des interprètes. C'est-à-dire qu'elles nous font voir, elles dévoilent à nos propres yeux une autre façon d'appréhender la matière même de ces pièces. Et c'est indispensable qu'elles continuent de vivre, c'est indispensable qu'elles continuent de maturer. C'est vraiment aussi encore là l'image d'une sculpture qui ne se terminerait jamais. Et qui nous enseigne d'autres choses sur soi. Les nouvelles pièces qui arrivent, effectivement, on découvre. Il y a cette dimension-là supplémentaire, c'est qu'on découvre de nouvelles choses, mais en même temps, elles entrent en relation immédiate avec les pièces précédentes. Et pour moi, donner cette vision globale de ce qui parcourt comme ça toute une œuvre, ça me paraît indispensable. Alors, on fait avec nos propres moyens, en proposant, par exemple, ces questions de parcours, mais je pense que les théâtres, certains théâtres le font de temps en temps, ils déroulent comme ça toute une partie du répertoire de l'artiste, mais c'est assez rare qu'on nous donne cette possibilité, et moi je trouve que cette façon très fragmentée de regarder une œuvre, c'est-à-dire souvent même les artistes eux-mêmes regardent les pièces à venir comme si elles allaient être plus importantes que celles qui sont derrière. Et en fait, moi, je pense que ça ne se regarde pas comme ça. Je pense que ce qui est derrière nous, ce qui continue de maturer, ce qui est en recherche et ce qui va prendre forme dans les prochaines pièces. Et pour moi, c'est en lien permanent. C'est aussi pour ça aussi que je parle de traits. Pour moi, elles sont pas. Il y a vraiment quelque chose qui les relie fortement. Et c'est aussi important de donner ça à voir en fait au spectateur et non pas de lui faire comme ça toujours une promesse d'une nouvelle pièce, comme si la nouveauté était d'ailleurs le garant de quoi que ce soit. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment, je vois à l'horizontale toutes mes pièces et je crois que depuis, enfin quasiment toutes mes pièces, on pourrait toutes les... D'abord depuis le CRI, c'est-à-dire depuis 2008, elles sont toutes encore actives, les créations depuis 2008, et celles d'avant, elles pourraient l'être aussi, sauf qu'effectivement, il y a une fracture dans mon parcours à partir de 2008 qui fait que les pièces avant 2008, elles étaient soumises peut-être à une autre logique et elles étaient marquées d'une certaine temporalité qui les rendrait peut-être difficiles à interpréter. Elles trouveraient alors, enfin, c'est vraiment par rapport à ça, c'est comment les interpréter. Comment interpréter un langage aussi éloigné pour moi aujourd'hui de celui que je pratique. C'est seulement ça pour moi qui les rend, qui les éloigne en fait. Donc je pense que c'est important d'œuvrer dans ce sens-là auprès des spectateurs, mais aussi des professionnels, de les convaincre. Au début, quand on a mis en place cette idée du parcours, je ne savais pas du tout comment les partenaires allaient réagir à l'idée de voir plusieurs pièces, d'autant qu'ils avaient coutume de dire qu'une pièce était très éprouvante. L'une de mes pièces était très éprouvante, donc je me dis, bon, voilà, on additionne. Et puis en fait, curieusement, l'addition provoque une forme de cohérence qui rend l'expérience beaucoup plus évidente et plus fluide que l'expérience d'une seule pièce. La chance que j'ai, c'est que d'abord, pendant 15 ans, j'ai créé des duos avec ma propre sœur. Et puis, mais en même temps, c'est des pièces que j'ai aussi envie de développer avec d'autres danseurs. Et puis, je crois, de toute façon, elles sont de parcours commun, de compagnons avec le danseur. Donc, je travaille rarement avec un danseur juste pour une création. Pour moi, l'idée, c'est de poser des jalons pour le long terme. Et on peut pas comprendre un univers si on butine comme ça et on fait l'expérience que d'une seule pièce. Ils comprennent très vite, d'ailleurs, les danseurs, quand ils entrent dans le travail, que ça va être un chemin long, que c'est pas du tout la maîtrise d'une pièce. Et on a cette chance, effectivement, de pouvoir travailler, et je pense que ça, c'est important de le valoriser, mais de pouvoir en permanence travailler sur... Enfin, de maintenir en vie des pièces et donc de continuer à les faire mûrir. Je donne juste un petit exemple qui me vient à l'esprit. On était en résidence la semaine dernière à la Fondation Luma, à Arles, et on a fait des ouvertures publiques tous les jours de 17h à 18h. Et donc, il y avait tout le personnel de Luma, mais c'était un petit peu ouvert aussi au public, etc., mais jauge limitée. Et il y a une personne qui s'amusait à venir au début et qui est revenue à la fin. Et donc, il s'agit évidemment de moments souvent répétitifs dans mon travail, enfin qui semblent être répétitifs. Et elle m'a dit, quand elle est revenue la deuxième fois, elle m'a dit, mais j'ai bien fait de revenir parce que, alors même qu'on pense voir la même chose, c'était une expérience complètement différente. Et c'était, elle avait le sentiment d'avoir vu une chose différente. Bon, ça tient aussi à la combinaison d'une structure écrite très précise et d'une dimension aléatoire dans l'écriture que provoque cette structure. Et du coup, effectivement, on a le sentiment de voir, de ne jamais voir la même chose. Et alors même que, voilà. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, ben voilà, en fait, elle l'a fait spontanément de revenir, mais peut-être qu'on pourrait regarder, on pourrait penser à regarder une chorégraphique de cette manière-là, c'est-à-dire pas comme un film dont voilà, on déflore et on dévoile le suspense, la chute et on retourne pas le voir, mais peut-être, bon, d'ailleurs il y a de nombreux films qu'on peut aussi revoir, mais j'ai rarement entendu dire des gens retourner voir le même spectacle plusieurs fois et j'aime aussi cette idée qu'on puisse regarder un spectacle de danse, non pas en essayant de comprendre quelle en est la trame, et comprendre certains éléments de la pièce, mais comme une expérience qui peut se renouveler de nombreuses fois. Donc la matière que je la travaille aussi en ce sens.
Addio del passato, ce dernier air de la Traviata qui se meurt, interprété par la Scala, c'est le choix de Nasser Abulhassa, qui utilisa ce même opéra de Verdi, couplé aux chansons d'Amy Winehouse dans Le Cri. En ne perdant jamais de vue l'idée d'une danse sensible, elle établit un rapport au public particulièrement intentionné. La chorégraphe revient à présent sur son travail avec les amateurs et ce que les non-danseurs lui ont permis d'observer sur le mouvement.
Moi, je pense que ce qui m'amène à élargir comme ça ma focale, c'est ma première, j'allais dire obsession, mais celle de l'unité. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, tout ça fait partie de cette mécanique que j'ai décrivée, cette grande mécanique. Tout ça en fait partie, le public en fait partie, ceux qui pratiquent, ceux qui ne pratiquent pas en font partie. J'essaie juste de cheminer de manière voilà, rigoureuse, avec beaucoup de précautions, parce que je ne tiens pas à brasser tout et n'importe quoi. C'est vraiment, j'intègre des éléments. J'ai mis 15 ans à travailler en duo, j'ai mis 15 ans, plus, presque 20 ans à intégrer d'autres danseurs à mon travail, parce qu'à ce moment-là, certains outils étaient suffisamment stables et en place pour pouvoir voilà, transmettre. Et puis peut-être que j'avais fait la recherche qui, moi, voilà, qui me paraissait essentielle et première. Je mets du temps à intégrer les nouveaux éléments. et parce que j'ai le souci de les intégrer avec cohérence aussi. Donc les amateurs, en fait, c'est parti, tout part d'observation et de constat. Hein. C'est parti d'abord d'un accident aussi, c'est quand on était à Freiburg. Et moi, bon, je l'avais déjà pressenti, hein, mais ça s'est, je pense, cristallisé à ce moment-là. On était à Freiburg, j'ai travaillé sur la traversée à l'époque, donc ça devait être en 2014. Et en fait, on devait travailler pendant une semaine et intégrer des amateurs. Donc ça, c'était le principe de travail dans ce théâtre, et ils nous demandaient d'intégrer un ou deux amateurs. Sauf que nous, on était en création sur cette pièce depuis de nombreux mois. Donc évidemment, je me dis, bon, ben, ça va être compliqué, les uns vont déstabiliser les autres, etc. Mais en même temps, j'ai cette chance de pouvoir me contredire régulièrement, et vraiment, ça fait du bien. Je décide de les intégrer. Et puis en fait, la leçon n'a évidemment pas été celle qu'on pense recevoir. C'est que les amateurs ont été beaucoup plus justes que les professionnels, avec qui je travaille depuis de nombreux mois. Plus juste, parce que c'était la première fois, premier geste, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir y parvenir, etc. Et les professionnels, à force de travailler leur propre matière, leur sujet, eh ben, on s'en éloigne aussi. On peut s'en éloigner en pensant s'en rapprocher. Il y avait une forme de concentration, de fermeture sur soi qui ne permettait plus à la chose de glisser. Donc à partir de là, et j'ai vu que effectivement les professionnels avaient été, les danseurs professionnels qui étaient avec moi avaient été très déstabilisés par cette expérience. Et donc ça révélait aussi la nature de leur ouverture ou non aussi à l'autre. Au moment où la chose se produit, est-ce que elle se produit dans l'ouverture, dans le lien, ou est-ce que elle se produit, comme bien souvent sur le plateau, par le fait de se concentrer en fait. Donc, à partir de là, il est devenu évident pour moi qu'il fallait que cette cloison tombe et que mes ateliers soient ouverts indistinctement aux amateurs comme aux professionnels. Donc, vraiment, il a fallu que je fasse ce chemin pour comprendre ça, cette expérience pour comprendre ça. J'idéalise pas les amateurs non plus. Je sais très bien qu'à partir du moment où on les met dans un travail régulier de prise de conscience, de maîtrise, etc., ils vont être aussi en difficulté. Mais c'est important d'apprendre, de réapprendre et de se reconfronter à ce premier geste, en fait. Et moi, je dis souvent à l'interprète avec qui je travaille, maîtriser, c'est conjuguer l'intention du premier geste avec tout un travail de conscience qu'on a eu à travers le temps. Et ce travail de conscience à travers le temps ne sert à rien si on oublie ce que ça fait la première fois de vivre cette chose-là. C'est la revivre à chaque fois comme si c'était la première fois, alors même que ça fait des années qu'on est en train de le faire. C'est pour ça aussi que j'ai expliqué que les pièces de répertoire étaient importantes, parce qu'elles permettent aussi de reconjuguer le présent, le ici et maintenant, comme on aime à le dire dans le spectacle vivant, le ici et maintenant, avec ce qui existe depuis très très longtemps. Donc l'interprète peut vraiment repenser sa façon d'appréhender en observant la mécanique de l'amateur. Et l'amateur, évidemment, peut aussi tirer quelques enseignements. Je ne saurais pas dire lesquels, mais... non, je plaisante. Du danseur professionnel. Non, parce qu'en fait, j'arrive à un point de ma vie où je me dis que maîtriser, c'est tout contraire de concentrer. C'est-à-dire que plus on arrive à faire en sorte que les choses nous échappent, plus pour moi, c'est de la maîtrise. Donc, ça n'a rien à voir avec maîtriser physiquement, avec la concentration, avec... voilà, c'est vraiment une idée qui se défait, se déconstruit, en même temps qu'elle laisse la place à autre chose. On se rend compte aujourd'hui que le mouvement, et d'ailleurs, c'est ce qui crée beaucoup de malentendus avec les danseurs qui entrent dans le travail à ce stade, c'est qu'ils voient le mouvement. Sauf que le mouvement, pour nous, c'est l'équivalent à l'immobilité, de la manière dont on l'a vécu et traversé. Et j'ai coutume de dire que le mouvement aujourd'hui, dans mon travail, c'est une illusion, il n'existe pas. On n'est pas à l'endroit du mouvement, on est à l'endroit de l'immobilité qui va créer ce mouvement. Donc, c'est évidemment des tensions travaillent absolument, enfin des pôles comme ça, qui travaillent naturellement ensemble. Et moi, j'ai l'impression de lever le voile, en fait, sur une gigantesque mécanique d'une complexité inouïe. Et en même temps, alors que j'ai pas du tout un bagage de scientifique ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression de c'est comme si on prenait un microscope et qu'on regardait la composition moléculaire d'une plante, d'une feuille, peu importe. Et là, il se passe la même chose au niveau d'une pièce. Je fais pas en sorte qu'elle soit complexe. C'est que je m'intéresse à un mouvement et en l'observant longuement, je me rends compte qu'il est complexe, il est de nature complexe. Et donc après, c'est de pouvoir restituer toute cette complexité dans le corps et l'esprit de l'interprète.
La Traviata, You Know I'm Not Good d'Amy Winehouse, deuxième pont musical de cet entretien, qui s'achève sur la notion de lâcher prise, chère à Nasser Abdelaza, qui entend avant tout travailler avec les états de corps plutôt qu'avec des concepts intellectuels qu'il s'agirait d'articuler.
Quand j'ai commencé à chorégraphier, j'ai fait un petit peu au début comme je pensais que tout le monde devait faire. Donc, on réfléchit à une pièce, on réfléchit à une structure, on écrit la pièce, on la structure un peu comme, voilà, comme une dissertation. Et en fait, en allant sur le plateau, bon voilà, ça a duré quelques années quand même, mais en allant sur le plateau, je me rendais compte que ça ne m'intéressait pas en fait, parce que j'étais aux commandes, en fait, de bout en bout. C'est-à-dire que je pense une chose, je la projette sur le corps l'exécute, et finalement, il m'arrivait rien d'imprévisible. Et donc, j'ai intuitivement, je pense, cherché à trouver les éléments, les composantes qui allaient pouvoir faire en sorte qu'il y ait en même temps qu'une écriture, qu'il y ait... ce sentiment que ça nous échappe, en fait, parce que c'est un petit peu la vérité aussi. Et c'est là où j'ai croisé les danses traditionnelles, comme je le dis souvent, les danses traditionnelles algériennes, mais pas que, hein, c'est pas l'apanage des danses traditionnelles algériennes. Et j'ai vu effectivement que l'état primait sur l'écriture, et paradoxalement, faisant primer cet état de communion, de lâcher prise, d'extinction totale du mental, ce qui se produisait dans le corps était paradoxalement beaucoup plus dense, beaucoup plus puissant, alors qu'on recherche dans l'écriture chorégraphique habituellement une forme de présence, mais presque par la concentration, par la force physique, par ce genre de choses, alors que là, il la trouve par le lâcher prise. Donc là, je pense que ça a inversé. C'est pour ça que je disais aussi que les premières pièces étaient pour moi un peu anachroniques aujourd'hui. Mais à partir du cri, ça a totalement inversé mon écriture. C'est-à-dire que j'ai toujours positionné la danse à l'intérieur de l'interprète, dans l'intime. Mais je pensais qu'il fallait aussi écrire un peu le corps. Donc c'est ce que j'ai fait sur les premières pièces. Et puis à partir du cri, je me suis dit, voilà. La forme, et c'est là où le mouvement répétitif... Finalement, le mouvement répétitif, il devient nécessaire quand la forme devient secondaire. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas de ce que le corps physiquement va inscrire dans l'espace comme forme, mais de l'état et de la manière dont il est animé. Et donc, à partir du cri, c'est ce qui s'est mis en place. Et donc, j'ai eu le sentiment, à partir de là, de créer une partition intérieure, une sorte de motif intérieur qu'on se dit, qu'on se redit, tel une psalmodie, et qui met en mouvement le corps, qui va évidemment aussi, comment dire, stimuler un imaginaire. Et donc, ce qui va se produire dans le corps n'est que l'émanation de ce qui se passe au-dedans. Donc, pour moi, vraiment, ça doit échapper à l'interprète, ça échappe évidemment au chorégraphe, ça ne s'écrit pas, ça se laisse. Voilà, ça s'évanouit au moment même où ça prend forme. Et c'est, je pense, à ce moment-là, quand j'ai trouvé cette combinaison entre la partition intérieure, ce qui est écrit, et qui est minutieusement écrit d'interprète en interprète, c'est la même chose qui se produit. Donc en fait, ils ont en commun cet invisible qu'ils ont en eux, mais ce qui se produit dans la matière physique ne doit absolument pas être sous contrôle ou prémédité ou projeté d'une façon, de quelque façon que ce soit. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu le sentiment que ce qui se produisait sur le plateau, en fait, c'est comme si on mettait en place une mécanique, et puis à un moment donné, voilà, cette mécanique va générer autre chose, et pour moi, la chorégraphie, c'est cette autre chose. Voilà.